Bonjour mes frères et sœurs, ouvrons le Saint-Livre et lisons quelques textes avant de comprendre ce que la pensée du Seigneur veut nous apporter. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, souvent dans le Deutéronome d'ailleurs, il est écrit « Souviens-toi ». S'il y a des choses qu'il faut oublier, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas oublier. Dans le Deutéronome au chapitre 8 au verset 2, alors ce genre de verset revient très souvent dans l'Écriture, présenté d'une façon ou d'une autre. Je vous encourage à prendre bien sûr note de ces textes que vous pourrez, chez vous, dans vos cultes personnels, méditer afin d'approfondir la pensée que nous partageons. Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Au verset 14, « Prends garde que ton cœur ne s'enfle de peur et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. » Nous allons faire une autre lecture. Dans les Proverbes, au chapitre 8 et au verset 13, il y a un verset qui mérite quand même que nous nous arrêtions. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais, dont Dieu hait l'orgueil. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45, il y a un texte qui nous indique que Dieu contrôle tout dans la vie. Ésaïe 45, verset 7. C'est bien que vous notiez ces versets. Ils vous permettront de mieux appréhender vos moments de prospérité, de joie et les moments d'adversité que nous traversons. Ésaïe 45, verset 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Amen. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, je ne savais pas quel texte choisir, tellement il y en a. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, vous savez cette situation où Jésus va poser une question pour éprouver les disciples. En tous les cas, il voulait éprouver un certain Philippe. Jean chapitre 6, verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, pourquoi Philippe, hein? Pourquoi pas Nathanaël, etc. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il s'est adressé à Philippe, il aurait pu s'adresser à André, à Jude, à Jacques, etc. Le Seigneur peut poser des questions à certains d'entre nous, dans le cadre d'un moment comme celui-ci, justement, pour que l'on comprenne que Dieu veut nous éprouver. Il peut nous éprouver même par la joie. C'est écrit dans l'Ecclésiaste, chapitre 2, si je me trompe, « Je t'éprouverai par la joie ». Quelqu'un qui est béni, profondément béni, matériellement, physiquement, intellectuellement, il a de quoi se réjouir, oui ou non? Eh bien, voyez, il y a des gens, quand ils sont bénis, ça peut être aussi une épreuve. Pourquoi? Parce qu'on a vu plein de gens bénis abandonner le Seigneur. Et les textes sur les épreuves sont immenses, immenses. Et ce matin, moi, j'aimerais d'abord vous poser une question. qu'est-ce que c'est qui, dans votre vie, à vous, hein, pas vos enfants, vos petits-enfants, vos conjoints, les gens que vous aimez, vous, qu'est-ce que c'est qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce que c'est qui est le plus important? Est-ce que c'est de réussir dans la vie? De gagner beaucoup d'argent? D'avoir une grande famille? Je ne sais pas, il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser. C'est quoi le plus important? Répondez-vous à vous-même. Est-ce que c'est de faire des progrès avec Dieu? Pourquoi Dieu a donné des pasteurs? Est-ce que c'est écrit que Dieu a donné des pasteurs pour le perfectionnement des saints? Pour que nous fassions des progrès, pour que nous marchions de progrès en progrès. Alors, je peux nous poser cette question. Est-ce que nous faisons des progrès? Est-ce que vous avez fait des progrès? Est-ce que vous pouvez voir la personne qui vous connaît le plus? Parce que c'est le plus facile. La personne qui vous connaît le plus est certainement à même de vous dire « Oui, tu as fait des progrès. Oui, tu en as fait. » Des petits, des moyens, mais quand même la personne qui vous connaît le plus, la personne avec qui vous vivez, votre conjoint, vos enfants, les gens avec qui vous partagez, vos amis proches, devraient pouvoir vous dire, oui, effectivement, tu as fait des progrès, ou non, tu n'as pas fait des progrès. Tu sais, ça me fait la peine de te le dire, mais tu n'as pas fait de progrès. Et la volonté de Dieu, c'est que nous fassions des progrès. Nous, on est là, focalisés parfois. Moi, je voudrais vivre longtemps pour servir le Seigneur longtemps. Vous voyez, il y a de bonnes raisons. Moi, je voudrais, bien sûr, je veux être prêt pour l'enlèvement. Mais est-ce que quand même, le fait de faire des progrès est important pour vous? Et il y a des choses, justement, qui empêchent la réalisation de ces progrès. On a vu dans le Proverbe 8 que Dieu déteste l'orgueil. Pourquoi? Eh bien parce que l'orgueil nous empêche de faire des progrès. L'orgueil est un problème grave, conscient ou inconscient, positif ou négatif. Je vais voir si j'ai le temps de bien expliquer tout ça. Mais il y a de l'orgueil négatif. Quand quelqu'un dit « Oh, moi qui je suis pour que Dieu m'aime ?»« Oh, vous savez, moi je suis qu'un pauvre type, je suis un misérable. Vous savez, si Dieu ne m'aime pas, c'est normal. » Mais c'est de l'orgueil. Dieu aime tout le monde. Qui êtes-vous pour commencer à dire que Dieu n'a pas de raison de vous aimer? Vous pouvez le tordre comme vous voulez, l'analyser comme vous voulez, c'est de l'orgueil. Ça veut dire que Dieu n'est pas assez grand pour vous aimer. Vous voyez? C'est de l'orgueil. Et Dieu, il nous connaît. Et vous savez, il sait. Moi, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans le psaume 141, je crois. Le psaume 23, c'est plus facile, mais... Le psaume... Attendez, je le lis, ne le cherchez pas. Excusez-moi, mais j'y tiens. J'y tiens parce que quand même, il est bon pour introduire cette prédication. 142, c'est un verset que j'aime beaucoup. Verset 4, « Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier sur la route où je marche. » Vous savez, je ne suis pas sûr que nous savons où nous en sommes vraiment, spirituellement. Mais lui, il sait où vous en êtes. Il sait exactement l'endroit du sentier où vous êtes, si ça monte, si ça descend, si vous êtes sur la bande d'arrêt d'urgence, si vous êtes plus dans le fossé qu'au centre de la route, il le sait. Toi, tu connais mon sentier. David avait un moment difficile, vous lirez le psaume 142, il était dans une caverne, c'est l'image de ce qui est sombre, c'est des épreuves. Il n'y a pas que la bénédiction, il y a des épreuves. On a parlé du psaume 23. Vous aimez le psaume 23? Est-ce qu'il y a un verset sur l'adversité dans le psaume 23? Il y a un verset? Ouais. Vous le connaissez? Tu dresses une table en face de mes adversaires. Il y a de l'adversité, même si le Seigneur est notre berger, il y a de l'adversité. Et beaucoup de gens n'acceptent pas l'adversité, ne comprennent pas l'adversité. Il y a de l'adversité. Et Dieu, qui nous connaît, qui sait exactement où nous en sommes, qui veut que nous fassions des progrès, vous n'êtes peut-être pas intéressé par des progrès spirituels, parce que vous dites, mais moi ce qui est important, c'est que je sois prêt pour l'enlèvement de l'Église. Bon, mais c'est sûr. J'espère que c'est une de nos priorités, peut-être la seconde, peut-être la première. Mais quand même, mes frères et sœurs, est-ce que vous aspirez à faire des progrès? C'est la volonté de Dieu, croyez-moi, que nous fassions des progrès. Et Dieu sait très bien ce qui peut nous empêcher de faire des progrès, et il va s'en occuper. On va lire un texte qui en parle, j'en ai déjà parlé, mais c'est un texte excellent, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 12, combien Dieu se préoccupait de maintenir son serviteur dans l'humilité. Est-ce que vous croyez que ce que Dieu a fait pour Paul, il veut le faire pour vous? Est-ce que ça vous intéresse que Dieu se préoccupe de nous maintenir dans l'humilité? Est-ce que ça vous préoccupe? Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul a bien sûr, une fois de plus, exprimé les révélations. Pour cause, il a même été ravi au paradis. C'est quand même une expérience qui a de quoi vous donner de la joie, non? L'apôtre Paul a été ravi au paradis. Alors au verset 5, il y a la suite. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Ah, Paul avait des infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en assieds, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Vous voyez, il est vraiment dans un examen profond par rapport à sa vie. Mais, regardez bien, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a prié. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que vous vous rendez compte de ce témoignage, de cette attitude? Il est soucieux, bien sûr, de ses progrès. Dieu est encore plus soucieux de préserver la valeur de son serviteur, car c'est un homme qui va écrire la moitié du Nouveau Testament. Alors vous allez me dire, ouais, mais vous n'allez pas me comparer à l'apôtre Paul. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu? À partir du moment où vous avez accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, vous êtes rentré dans son royaume, vous êtes rentré dans son école. Et bien sûr qu'aujourd'hui, les chrétiens sont préoccupés de certaines choses, bien sûr de réussir. Et Dieu n'est pas contre. Vous pouvez lire des centaines et des centaines de versets sur la façon dont Dieu se préoccupe de notre bonheur. On le voit, le psaume 23 en est une preuve certaine. Oui, le bonheur est la grâce. Ne nous mettons pas un seul instant en tête que le bonheur, nous pourrons l'obtenir sans la grâce. C'est la grâce qui procure le bonheur. Si vous êtes heureux ce matin, c'est parce que vous êtes conscient de la grâce de Dieu. Et pas pour autre chose. Dieu nous connaît. Et Paul va donner ce témoignage qu'il aurait pu ne pas donner. Il l'a donné parce que le Saint-Esprit l'a voulu. Il y a certainement d'autres expériences qui ne sont pas relatées dans les Écritures. Mais celle-là, elle y est. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a de l'adversité. Dieu la permet. Nous, on est là tout le temps en train de dire, oui, Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Moi, je crois à la guérison. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais humblement, mon expérience à force, l'expérience des frères, m'a montré, quand même, je ne sais pas si tout le monde va être d'accord, mais ce n'est pas grave, mais quand même c'est sérieux. Pour moi, quand même, il y a des choses plus importantes que la guérison. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Mais il me semble, ce texte en est une preuve, car Dieu a laissé son serviteur, pour lequel il était certainement extrêmement attaché, dans cette infirmité toute sa vie. Pourquoi? Parce que son ministère avait plus d'importance que sa santé. Je le répète, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je crois que Dieu veut guérir. Et que ce matin, Dieu peut guérir. Et que tout à l'heure, on aura un moment de prière pour que ceux qui ont besoin d'une guérison soient guéris. Mais je le confirme, il y a des choses plus importantes que la guérison. Dieu connaissait la valeur de cet homme. Dieu connaît votre valeur. Et si vous ne faites pas des progrès, il va provoquer de l'adversité que vous accepterez ou que vous n'accepterez pas. Parce qu'on peut court-circuiter l'adversité. Quand il est dit que toute chose concourt au bien, il n'est pas dit toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et beaucoup de gens se sont targués de dire « Oui, moi, ça n'a pas concouru à mon bien. Vous avez vu dans quel pétrin je suis ?» Eh bien, c'est sûr, ils ont court-circuité l'affaire et ont résisté à Dieu et se sont éloignés de Dieu et aujourd'hui sont ce qu'on appelle des fils prodigues dans la crainte, dans l'amertume. Ils ont court-circuité le plan de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont rétrogrades. Le mot, il est pas, c'est pas le plus intelligent peut-être. Beaucoup de chrétiens sont très très loin de Dieu. Ça, c'est sûr. Dieu, il sait. Il sait ce que vous valez. Et il sait si oui ou non, vous stagnez dans une espèce de pseudo-piété, si vous maintenez juste le salut, ce qui est déjà pas mal. Mais comment voulez-vous faire des progrès si Dieu n'intervient pas? Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu veut que je fasse des progrès? Eh bien, parce que le salut de certaines personnes est lié à votre témoignage. Est-ce que vous le savez, ça? Que le salut... peut-être de votre voisin est lié à vous seul. Est-ce qu'elle a de la valeur, la vie de votre voisin? Si le salut d'une personne dépend de votre témoignage, est-ce que vous avez de la valeur? Eh bien sûr que oui. Et Dieu, il le sait. Et s'il y a un esprit hautain, un esprit rebelle, un esprit arrogant, vous avez vu, ce sont des choses que Dieu est. Bien sûr que Dieu est plein d'amour et tout ce qu'on a chanté ce matin est vrai. Dieu est plein de miséricorde. Dieu a tant aimé le monde, etc. Mais la Bible dit que Dieu est le pécheur. C'est-à-dire que Dieu déteste le péché. Il déteste la personne qui s'enferme dans le péché. Les pécheurs seront comment? Qu'est-ce qui va se passer pour les pécheurs qui ne se convertissent pas? La colère de Dieu demeure sur eux. On le sait. Et si Dieu connaît notre capacité, il y en a un autre qui la connaît aussi et qui va se charger de nous dégommer. Vous savez, l'ennemi, il sait nos points faibles. Il connaît nos points faibles et il sait. Mais l'orgueil, c'est quelque chose de terrible dans la Bible. C'est l'orgueil qui a fait rentrer le péché. Quand Adam et Ève ont péché, c'était de l'orgueil. Dieu a-t-il réellement dit, mais oui, au fait... peut-être que le Seigneur nous cache des choses. Ils ont écouté la voix du serpent. Ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Ils ont écouté la voix de Satan. Et ils n'avaient pas d'antécédent, croyez-moi, pour dire oui, vous comprenez avec ce qu'on vit. Non, ils ont préféré la voix de Satan à la parole de Dieu. Et quand vous lisez les Écritures, c'est très 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 intéressant parce que c'est un sujet qui revient. C'est un sujet qui revient presque dans tous les livres, tous, l'adversité. Et nous voyons bien comment ça se passe pour l'un, Jonas. Jonas, est-ce que Jonas a connu l'adversité? Jonas, comment il était, Jonas? Comment vous définiriez le caractère de Jonas? Comment? J'ai pas entendu. Oui, un peu plus que perturbé. Moi, je pense qu'il était un peu dur, non? Il a résisté à Dieu, d'accord? Il a résisté à Dieu. Mais Dieu l'a quand même utilisé. Vous êtes d'accord? Soyez honnête. Il faut être honnête, mais vraiment à fond avec Dieu. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est vraiment l'homme de Dieu que Dieu a choisi, etc. Et quand même, David, il a commis quelques perles. Il a menti. Il a commis l'adultère. Etc. Il a fait tuer un de ses meilleurs officiers. Etc. etc. Mais est-ce que Dieu l'a utilisé à David? Parce que David, malgré son immoralité, il s'est vraiment repenti. Est-ce que vous comprenez? Attention! Il s'est vraiment repenti. Abraham, Dieu l'a utilisé. Pourtant, Abraham, à deux reprises, il va flirter avec le mensonge et la vérité. Dieu l'a utilisé. Il a utilisé Pierre. Pierre, ce grand gaillard. malgré son reniement, est-ce que Pierre n'a pas fait un gros péché? Celui qui me reniera, je le renierai, a dit Jésus, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais Dieu réutilise Pierre, et pourquoi? Eh bien parce que Pierre se repent profondément et Dieu réhabilite. Et on pourrait prendre plein d'exemples d'hommes de Dieu qui ont commis des péchés, mais que Dieu n'a pas abandonné. Mais lorsqu'un homme vit dans l'orgueil, Dieu lui résiste. C'est une loi. Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est pour cela qu'il faut être sérieux. On va prendre le pain, le vin, on va prier. Il est important que je puisse dire, que tu puisses dire, Seigneur, oui, je veux faire des progrès. Regardez certains orgueilleux dans la Bible, je pense à Nebuchadnezzar, vous lirez dans Daniel. Daniel 4, lisez ce livre et vous verrez comment Dieu résiste aux orgueilleux. C'est impressionnant. C'est un principe. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Lorsque l'orgueil rentre dans le cœur d'un chrétien, il s'en rend compte ou il ne s'en rend pas compte, il est en opposition avec le Seigneur. Même si on a l'impression qu'il peut faire des progrès, l'autre jour à la réunion des responsables, nous avons vu le comportement d'Ozias. Vous vous rappelez le comportement d'Ozias, vous qui étiez là? Lorsqu'Ozias s'est éloigné de Dieu, vous savez ce qu'il a fait? Il n'est pas tombé dans l'immoralité. Il n'est pas tombé dans l'adultère. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous rappelez? Il est rentré dans le temple pour offrir des parfums. Quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, il pourrait dire, mais... Non mais attends, mais qu'est-ce que tu vas pas là, le critiquer, le brave? On va le lire quand même, parce que l'orgueil, c'est pas que la grossièreté, les péchés vulgaires. Regardez ce texte, c'est là dans la Bible, c'est dans 2 Chroniques. Merci Jonathan. 2 Chroniques 26. Regardez, c'est un homme qui a été béni tout le temps où il a été au bénéfice de Zacharie, du ministère. Vous savez, c'est important d'être bien accompagné dans une église. Est-ce que vous êtes bien accompagné? Est-ce que vous êtes entouré de gens spirituels? Est-ce que vous avez des amis spirituels? Parce que vous savez, si vous n'avez pas des amis spirituels, Ozias a été un bon roi pendant la vie de Zacharie. Et regardez, alors en Chronique 26, verset 16. Lorsqu'il fut puissant, vous y êtes? C'est important parce que nous, on voit souvent que le péché grossier. Il y a les péchés spirituels. 2 Chroniques 26, verset 16. Vous y êtes? Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. En plus, c'est écrit. Hein? Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Oui, ce n'est pas le péché de David. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Si on s'arrête, on pourrait dire, attends, mais il n'y a pas un péché là. 17. Le sacrificateur Azaria entra avec lui, après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux, alléluia, qu'il y en ait des hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce roi appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Il aurait dû dire, pardon, Père, excusez-moi les frères, merci. Mais voyez l'orgueil ce que c'est. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Vous pourrez lire la suite, en fait il est resté comme ça jusqu'à sa mort, parce qu'il ne s'est pas repenti. L'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pour ça qu'il faut faire attention et ne pas faire les intelligents avec une apparence pseudo-spirituelle quand on ne l'est pas. Mes frères et sœurs, la bénédiction, c'est quand on ne fait que ce que Dieu nous demande. Le roi, quand Azaria lui a dit « Écoute, tu es le roi, mais ça ne va pas ». Et c'est ce qu'on devrait faire. Dans l'église, on doit être courageux les uns envers les autres, être capable de dire « Non, ce que tu fais n'est pas bien ». C'est ça l'église. C'est ça la grâce. Dieu n'encourage pas les orgueilleux. Dieu ne secourt pas les orgueilleux. Dieu n'aide pas les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? Et c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre pourquoi Dieu peut permettre l'adversité. Dieu aimait l'apôtre Paul, c'est évident. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses plus importantes que la guérison. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Avec la parole surtout. Oui, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Par contre, quand on commence à détourner, c'est pour ça que je le répète, parce que des fois on se dit, mais pourquoi telle personne, elle a rétrogradé? Pourquoi telle personne, elle ne va plus à l'église? Parce qu'elle a co-circuité le plan de Dieu. Parce qu'il y a de l'adversité. Il y en aura toujours, je ne veux pas vous faire peur, mais l'adversité, Dieu la contrôle. Il la contrôle. Et là, l'apôtre Jacques va très très loin. Vous connaissez ce texte? Moi, je l'ai appris par cœur. Considéré comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et le Seigneur ajoute, c'est bien si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, parce que pour comprendre l'adversité, il faut un minimum de sagesse. L'adversité, il faut l'accepter, il faut pas la contrer. Oui, je suis en train de traverser un moment difficile. Je veux l'accepter. Quand on n'accepte pas l'adversité, regardez avec moi dans Hébreux. Il y a un verset qui est terrible dans Hébreux. Autant celui que je viens de vous lire est une bénédiction parce que les gens sont heureux. Mais regardez Hébreux 12, verset 5. Et regardez ce verset s'il est beau. S'il indique ce qui se passe. Oui, on peut repousser l'adversité en rétrogradant et en pensant s'en être bien sorti. Hébreux chapitre 12, verset 5. Avez-vous oublié l'exhortation, comme quoi on peut oublier les choses, vous voyez? Avez-vous oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie. Le mot châtie, ça veut dire corriger pour instruire. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, l'épreuve. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Regardez le verset 8. Regardez-le. Mais, si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc si quelqu'un arrive à repousser l'adversité que Dieu permet pour le faire mûrir, pour lui faire faire des progrès, pour lui apprendre à être utile, eh bien, il devient un enfant illégitime. Il perd sa filiation. Il peut perdre le salut. Et beaucoup de chrétiens en arrivent, parce qu'on n'est on est pas des brebis, nous. Autant le Seigneur, dans sa bonté, nous compare à des brebis, mais une brebis ou un mouton n'a pas le réflexe d'abandonner le troupeau. Vous comprenez, elles suivent, même si des fois elles se perdent un peu. Elles ont une certaine intelligence, mais nous, on a le pouvoir de nous rétracter du troupeau. Et mes frères et sœurs, il n'y a rien de plus important que d'aimer l'Église. Est-ce que vous aimez l'Église? Mes frères et sœurs, si vous aimez la tête, vous aimerez le corps. Si vous aimez que la tête et que vous n'aimiez pas le corps, ce n'est pas bon signe. Et il y en a un qui s'applique à faire en sorte que nous n'aimions pas l'Église pour qu'on se mette justement en vrac. Mes frères et sœurs, nous devons aimer l'Église. Le Seigneur Jésus a donné sa vie, l'Église c'est son corps. Nous sommes membres les uns les autres et nous devons justement travailler. Et si Dieu utilise un frère, une sœur pour permettre de l'adversité dans ma vie, eh bien merci Seigneur. Vous avez, des fois, j'entends pas des amen parce que je sais que j'ai des difficultés. Je vieillis, je sais qu'en vieillissant, on perd tous les ans 1%. Mes frères et sœurs, est-ce que vous acceptez que Dieu utilise un frère, une sœur, pour vous éprouver? Attends, répondez. Est-ce que vous acceptez que Dieu utilise quelqu'un? Ou dire, mais celui-là, mais il n'est pas converti, mais tu te rends compte, mais non, mais... Oui, mais c'est vrai que dans les églises, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Il y a même des pasteurs qui ne sont pas convertis. Mais il n'empêche que Dieu, dans sa souveraineté, peut utiliser qui il veut. et nous n'avons pas contourné cette adversité en rétrogradant. Nous devrions dire, Seigneur, je l'accepte. Tu avais un plan pour Paul, tu as un plan pour ma vie et tu as un bon plan pour moi. Est-ce que vous savez que Dieu a un plan pour vous? Un bon plan. Est-ce que vous le croyez? Vous vous rappelez l'autre jour quand je prêchais sur cette affaire où Jésus était avec les douze et sur le chemin, comme par hasard, il rencontre cet aveugle-né qui était là depuis peut-être 30 ans, et c'était un homme. Et de suite, qui a péché? Vous voyez, tout le temps on est dans l'accusation, dans la culpabilité. Lui ou ses parents? Jésus dit, mais ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il y a des œuvres, il y a un plan. Est-ce que l'église de Sainte-Anne veut avancer dans le plan? Est-ce que votre foyer veut rentrer dans le plan de Dieu? Est-ce que vous priez avec votre femme? Et dit, Seigneur, on veut faire ta volonté. Est-ce que vous priez avec votre femme? Peut-être vous allez me dire, mais on ne prie jamais ensemble. On est timide. Sérieusement. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui disent « Ah, ma femme, on n'ose pas prier ensemble, on est timide. » Je pense que ça doit vous arriver quand même de vous embrasser. De critiquer ensemble. Soyons sérieux, frères et sœurs. Il y a des œuvres, il y a des plans. Est-ce que c'est beau quand un homme prie avec sa femme? Mon frère, ma sœur, aimez prier avec votre épouse si elle est chrétienne. Non? Appliquez-vous à dire, Seigneur, on veut rentrer dans tes plans, je veux te louer, Seigneur, pour tout, on va te louer pour tout, on va, oui, te rendre grâce pour les épreuves. Moi, j'ai demandé qu'on le chante plus, ce cantique, parce qu'on fait mentir trop de gens. Vous savez, merci Seigneur pour les épreuves de la vie. J'ai demandé, enfin, j'espère que vous le faites, à ne pas chanter ce cantique, parce qu'on fait mentir la moitié des gens. Parce qu'il y a des cantiques quand même, je pense qu'il vaut mieux éviter. Mais il y a des gens qui peuvent le chanter. Seigneur, je suis éprouvé en ce moment dans tel domaine. Eh bien, je l'accepte. Je l'accepte. Je te bénis pour tout ce que tu m'as donné. Je te bénis pour tout ce que tu ne m'as pas donné. Parce que si tu me l'avais donné, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Vous croyez que si Dieu nous avait donné certaines choses, nous avait béni matériellement, comme certains l'ont demandé, vous croyez qu'on serait tous là? Moi, je ne suis pas sûr. Il y a un homme qui fait partie des top niveaux. Je le mets dans la liste des top niveaux dans la Bible. C'est Joseph. Vous rappelez Joseph? Il est en prison depuis longtemps. Ça fait 11 ans qu'il est dans l'épreuve. Il se retrouve encore emprisonné dans une situation où ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'il dit à des gens qui sont emprisonnés, des païens qui sont emprisonnés, qui vont être utilisés par Dieu, etc. pour plus tard? N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Enfin, quand vous voyez Joseph, là vous voyez un homme que Dieu a poussé. Là il n'a pas résisté. Et pourtant, cet homme a connu 13 ans d'épreuves à partir de 17 ans. Il a accepté l'adversité. Vous ne le voyez jamais branché. Et il y a un travers dans l'Église, pas ici, dans l'Église, dans le corps de Christ, qui fait qu'on veut toujours attribuer l'adversité au péché. Moi, j'ai lu des bouquins qui parlent de Joseph et qui disent, oui, Joseph, s'il a connu cette adversité, c'est parce que c'était un orgueilleux. Écoutez-moi bien, si Joseph avait été un orgueilleux, Dieu ne l'aurait pas utilisé. Dieu lui aurait résisté. Il a été certainement naïf, mais il n'a pas été orgueilleux. Mais frère, il y en a même qui disent que Job. Moi, j'ai lu des commentaires où ils disent que Job était un orgueilleux et qu'il fallait qu'il ait une bonne épreuve pour être ressaisi. Mais moi, justement, quand Dieu parle de Joseph, de Job, il dit, tu as vu mon serviteur Job? Comment il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais voyez ce travers que l'on a de vouloir toujours voir du péché lorsqu'il y a une épreuve. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est pour ça que ce qu'il faut faire, c'est moi j'accepte cette épreuve. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné. Je te bénis pour tout ce que tu ne m'as pas donné. Je te remercie pour cette tempête. Je sais que sur le moment, c'est plus facile de le dire quand on est en dehors de la tempête. Vous vous rappelez les apôtres dans la barque? Les apôtres dans la barque, ils étaient dans la tempête. Qu'est-ce qu'ils faisaient, au fait? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train d'obéir. Oui ou non? Qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Vous avez dit, voilà, traversez le lac. Jésus s'est retiré d'eux, il n'a pas été avec eux, il les a laissés faire. Et à 3 heures du matin, il est intervenu. Mais ils étaient dans la tempête. Ils étaient en train d'obéir. Et ce n'est pas parce que vous êtes en train d'obéir que vous ne traverserez pas de tempête et qu'il vous faut tout envoyer balader, parce que vous ne comprenez pas cette tempête. Mais moi, mon boulot, franchement, qu'est-ce que c'est ça? Ils ont donné le poste à qui? Ouais, ils ont donné le poste à cette fille, parce qu'elle a couché avec le chef de service. Et moi qui suis intègre, eh ben, je me retrouve toujours là, secrétaire, à faire des papiers, avoir le même salaire. Ben, si c'est ça, la justice, je vous en voulais des témoignages comme ça. Mes frères et sœurs, vous ne croyez pas que c'est quand même merveilleux de rester intègre quoi que ce soit qui se passe? De commencer à dire à Dieu, ouais, je ne comprends pas. Et Seigneur, je vous donne des témoignages, j'ai entendu. Hein? Et Seigneur, je ne comprends pas, tu n'es pas juste. Ma fille s'est mariée avec un converti. Alors là, Seigneur, je t'accepte, j'accepte pas ça. C'est inadmissible. Pourquoi tu as permis? Parce que Dieu nous laisse libre. Est-ce que c'est la faute à Dieu? Est-ce qu'un de nos enfants peut faire ce genre de choix? Bien sûr. Vous allez en vouloir à Dieu et commencer à vous mettre en colère contre Dieu. Mais je vous donne des exemples parce que c'est ce qui se passe. Mes frères et sœurs, que Dieu nous accorde la joie d'avoir tous nos enfants qui se marient avec des chrétiens. Gloire à Dieu. Mais ne vous mettez pas en colère contre Dieu parce que cette situation pourrait se présenter. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Ce sont des choses sérieuses. Job, il dit, si Dieu m'éprouve, je sortirai pur comme l'or. Il n'a pas dit, quand Dieu m'éprouvera, vous verrez, vous verrez, vous verrez, vous verrez, je sortirai plus riche. Vous verrez, moi je retrouverai mon argent. Non, il ne pense pas à son argent. Si Dieu m'éprouve, je sortirai plus pur. Ça veut dire quoi? Si Dieu m'éprouve, j'aurai fait des progrès. C'est pour ça qu'on est des chrétiens. C'est pour ça que Dieu nous garde sur la terre. Vous ne croyez pas que Dieu pourrait lier Satan maintenant, dans la seconde qui suit? Est-ce que Dieu pourrait lier Satan, là, maintenant? Il va le faire un jour. Un ange, il n'a pas besoin d'une légion d'anges. Un ange va prendre chat de Satan et le jeter dans les temps de feu, pendant 1000 ans, pour que notre dispensation se mette en place. Vous ne croyez pas que Dieu pourrait le faire maintenant? Il pourrait le faire. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il utilise sa bonté et sa miséricorde infinie. Et quand on chantait ce cœur ce matin qui rappelait que du côté de Jésus, du cœur de Jésus est sorti du sang et de l'eau, et qu'il y a la grâce qui continue de couler, vous le croyez mes frères et sœurs? Mais sa grâce, sa bonté, sa préscience, il est tout puissant mes frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez? Et s'il y a de l'adversité, acceptez-la. Acceptez-la, Seigneur, je l'accepte. Moi ce que je veux c'est te connaître. Est-ce que vous voulez connaître le Seigneur davantage? Ou est-ce que peut-être que vous le connaissez assez? Peut-être que vous le connaissez même trop. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît trop, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Levez-vous, s'il vous plaît. Nicolas? Il disait cela pour l'éprouver. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire, le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais Seigneur, moi je veux te faire confiance. J'accepte. Vous savez, ce que je vous dis... Je l'ai appris, c'est bizarre, dans l'adversité. Je l'ai appris en pleurant. Je l'ai appris tout ça. Quand vous savez, ça me rappelle des drôles de souvenirs, ce que je suis en train de vous prêcher. Parce que je ne l'ai pas appris en chantant « L'Éternel est mon berger ». Je l'ai appris en disant « Seigneur, que je ne pouvais plus chanter, que j'aime la famille de Dieu ». Oui, vous connaissez le cantique que j'ai. Ici, je peux le chanter. Mais il y a une époque où j'ai dit, non, tu ne chantes pas ça, c'est pas vrai. Vous savez, c'est dur quand vous êtes assis à côté d'un frère et que... et que vous ne pouvez pas chanter que j'aime la famille. Parce qu'il faut, à un moment donné, il faut, voyez, est-ce que vous me comprenez? Vous me garderez comme un pasteur quand même? Mes frères et sœurs, je l'ai appris là. Je ne pouvais pas chanter que j'aime la famille de Dieu, j'aurais pas pu le chanter. Mais j'ai dit, Seigneur, je t'aime à toi. Et je vais apprendre, et j'ai appris. Et j'ai appris toutes ces choses. Moi, je peux vous prêcher pendant des journées sur l'adversité. Parce que j'ai dit, comment Joseph a vécu l'adversité? Comment Jonas a vécu l'adversité? Comment Pierre a vécu l'adversité? Etc, etc. Mais mes frères et sœurs, on va le lire avant de prendre la Sainte-Cène. J'aimerais que ce verset... Il soit gravé dans votre cœur. Il soit gravé dans votre cœur. C'est un verset extraordinaire. Celui qu'on a lu dans Hébreux, laissez-moi vous dire qu'il vaut mieux pas la prendre par cœur. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Parce qu'il s'adresse aux gens qui ne sont plus corrigés par Dieu. Les rétrogrades, certains sont contents. Ils ont l'impression qu'ils s'en sont tirés à bon compte. Laissez-moi vous dire qu'ils ne s'en sont pas tirés à bon compte. Ils ne sont plus des enfants du Seigneur. C'est pas moi qui le dis. Jacques 1, verset 2. Relisons-le avec... avec émerveillement. Moi, c'est un chapitre, c'est des versets. Avant d'aller à Tahiti, je les ai lus tous les jours. J'étais poussé, il fallait que je l'apprenne parce que c'était vraiment ma bouée, ça. Pendant 6 mois, tous les jours, j'étais obligé de lire ces 3 versets, ces 4 versets. Tous les jours. Tous les jours. Et j'ai compris pourquoi en septembre 95. Jacques chapitre 1er, verset 2. Mes frères, mes sœurs aussi, ne vous inquiétez pas. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Au chapitre 3, on pourrait peut-être lire le verset 2, parce que quand même, il nous donne une indication de la personne qui est parfaite. Il y en a quelques versets quand même qui en parlent. Ça vaut la peine quand même. Jacques 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Gloire à Dieu, que Dieu nous donne cette grâce. Vous voyez, c'est écrit. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, ça vaut la peine d'apprendre à se taire. Et dire, Seigneur, je te fais confiance. Vous savez, l'adversité, moi j'aime prêcher sur l'adversité parce que je ne comprenais pas. J'étais jeune, j'avais 36 ans, mais j'étais jeune, c'est vrai. Il y avait 12 ans que j'étais pasteur, mais je croyais que j'avais tout appris. J'avais rien appris. Et aujourd'hui, je ne sais pas beaucoup plus. À savoir que je sais une chose, c'est que ceux qui connaissent Dieu ne peuvent pas faire autrement que de lui faire confiance. Ça, c'est sûr. Si vous le connaissez, vous ne pouvez pas ne pas lui faire confiance. Il est digne de confiance. Et on va le remercier. On a 3 quarts d'heure devant nous pour prendre la Sainte Cène, pour donner nos offrandes, car le don qu'une sœur n'a pas donné tout à l'heure est un don pour des chrétiens. C'est vrai que c'est délicat l'argent, mais il y a des gens qui volent Dieu. Et je vous encourage à vous mettre à genoux et dire, Seigneur, pardon, et donne-moi de donner ce que je dois te donner pour l'avancement de ton royaume. C'est important ce que je viens de vous dire. Grandir, c'est dans tous les domaines. On reste recueilli et on répond à cette prédication tout en nous rappelant que Dieu résiste aux orgueilleux, ceux qui n'acceptent pas la vérité. Si vous avez volé Dieu et que vous dites que ce n'est pas vrai, vous êtes un orgueilleux. Écoutez, ça ne peut pas être plus simple. Après, c'est entre vous et lui. Dieu sait ce qu'il a à faire. Il nous éprouvera et il mettra même une table en face de nos adversaires. Vous entendez? Vous savez ce que ça veut dire? Qu'entre vous et l'adversité, Dieu mettra sa bénédiction. Si, à condition que l'Éternel soit votre berger, et que vous ne soyez pas vous le berger et Jésus la brebis, que ce soit vous qui conduisiez tout. Ça, de toute façon, ça ne marchera pas. Hein. C'est une image. Hein. Mais si le Seigneur est votre berger, il vous dirigera dans les sentiers de la justice, dans tout ce qui est juste. Et quand il y aura de l'adversité, alléluia, il mettra une table. Ça veut dire l'abondance. Levons-nous pour prendre le pain et le vin avec respect. Oui, Dieu ne se trompe jamais. Avant qu'ils entrent dans Canaan, Dieu voulait les humilier et les éprouver pour qu'ils soient prêts à affronter toutes les œuvres qu'il avait préparées. Dieu a un plan pour toi, mon frère. Dieu a un plan pour toi, ma sœur. Dieu a un plan pour toi, jeune homme. Dieu a un plan pour toi, couple de l'Assemblée. Monsieur et madame, vous qui êtes mariés, Dieu a un plan pour toi. Vous qui êtes fiancés, Dieu a un plan pour vous. Vous qui êtes seul, vous qui êtes divorcé, Dieu a un plan pour vous. Ne cherchez pas à fouiner dans le passé, entrez dans les œuvres. Entrez dans les œuvres, alléluia. et lui remercions-le. Seigneur notre Père, oui, il nous est doux de lire ces psaumes. Lorsque tu es notre berger, oui Seigneur, quel bonheur de savoir que même dans l'adversité, tu dresses une table. Il y a un menu gras et succulent pour tous ceux qui t'ont pour berger. Oui, merci pour l'adversité, merci pour la joie, merci pour les bénédictions. Que tout ce que nous vivons, Seigneur, contribue à ce que l'on fasse des progrès, non pas pour la grande récompense qui nous attend, mais Seigneur, pour t'être agréable. Oui, Jésus, nous voulons faire des progrès ici dans cette assemblée. Nous te demandons de nous aider à faire des progrès. Que ton nom soit béni, Seigneur.